Bonjour, ici Clovis
et Noah.
Bienvenue à tous pour cette nouvelle émission de Tech News du lycée Émile Pétavin. Comme depuis le début de l'année, nous vous proposons d'aborder plusieurs rubriques au sujet riche et varié.
Au sommaire donc, une rubrique santé, avec un focus tout particulier sur le harcèlement scolaire et la santé mentale.
Une rubrique société ensuite, qui mettra l'accent sur deux situations où nous pouvons être manipulés.
Une rubrique loisirs pour continuer, qui nous permettra de vous en dire un peu plus sur les jeux, jeux de rôle et jeux d'horreur.
Avec la rubrique sport ensuite, nous partirons à la rencontre des sportifs français qui ont ou vont participer aux JO.
Et enfin, les élèves de terminale accompagnement, soins et services à la personne. Nous parlerons de leurs projets en lien avec l'association ELA et la lutte contre les leucodystrophies.
Mais commençons dès à présent avec la rubrique santé et donnons la parole aux élèves de terminale sciences et techniques sanitaires et sociales. Ces élèves ont analysé les chiffres du harcèlement dans le lycée et vont nous faire part de leurs observations.
Début novembre 2023, les médias ont relayé les chiffres de l'étude IFOP sur le harcèlement. Selon cette étude, 19% des élèves français de primaire, de collège et de lycée seraient victimes de harcèlement. Cependant, 16% des élèves estiment avoir été harcelés pendant plus d'un mois et demi. Ces 19% concernent toutes les situations de harcèlement sans limitation de durée. Mais est-ce que ces chiffres sont le reflet de ce qui se passe au lycée ? Beaucoup d'élèves du lycée Émile Pétavin, 370 environ, ont répondu à un sondage mis en ligne sur Pronote. Ce sondage a permis de se faire une idée des formes et conséquences du harcèlement sur les victimes dans le lycée.
Tout d'abord, ce qui ressort, c'est que le harcèlement peut prendre différentes formes. 16% des élèves du lycée disent avoir été victimes de moqueries, 25% de rumeurs, et ils sont 9% à avoir subi des violences physiques. Des chiffres qui sont conséquents et qui, pour certains, confirment nos impressions du quotidien. En effet, on constate qu'un élève sur quatre a été victime de rumeurs. Ce chiffre reflète une situation malheureusement fréquente au sein du lycée.
Bien souvent, ces actes se déroulent dans des espaces de vie commune. 13% des élèves disent avoir subi des situations de harcèlement dans la cour de récréation, 7% dans la rue et 3% à la cantine. Ces espaces ont en commun d'échapper à la surveillance des adultes, d'autant plus dans les cas où les actes malveillants sont discrets et peu visibles. Mais même lorsqu'ils sont discrets et peu visibles, ils ne sont pas sans conséquence. 18% des élèves témoignent de résultats scolaires en baisse suite à des actes de harcèlement. 19%, eux, signalent des maux de ventre ou de tête et 13% des problèmes de sommeil ou d'endormissement. Ces chiffres sont supérieurs à ceux donnés par l'IFOP dans le sondage national. On constate donc que les conséquences du harcèlement sont plus marquées au lycée qu'au niveau national.
En revanche, les chiffres concernant le cyberharcèlement sont similaires à l'échelle nationale et au niveau du lycée. Environ 10% des élèves disent avoir reçu des messages insultants ou menaçants. Le sondage du lycée permet d'avoir des données manquantes au niveau national. On apprend par exemple que 10% des élèves du lycée ont déjà vu circuler des images d'eux sans avoir donné leur autorisation. 4% d'entre eux ont vu circuler leurs photos ou vidéos intimes et toujours 4% sont victimes d'insultes à caractère sexuel.
Ces chiffres sont étonnants car ils rendent visibles des situations qu'on ne voit pas forcément au quotidien. Le harcèlement est souvent discret ou en tout cas on ne s'en rend pas forcément compte. D'autant plus que certains marqueurs du harcèlement peuvent ne pas être interprétés de la même façon par tout le monde, comme par exemple la mise à l'écart. Les situations de harcèlement nous semblent difficiles à identifier quand on y est extérieur. On comprend donc mieux que les victimes se sentent seules et isolées.
Comme le disait Yanis précédemment, on comprend mieux le sentiment de solitude des victimes de harcèlement. Avec Luna et Louis, on va vous donner quelques conseils et infos si vous êtes victime de harcèlement ou pensez l'être. Tout d'abord, et c'est le plus important, ne restez pas seul et parlez-en à des personnes de confiance, que ce soit des adultes ou des amis et des personnes de notre âge. Si vous ne savez pas vers qui vous tourner, depuis la rentrée 2023, le programme phare est déployé dans tous les établissements scolaires, collèges et lycées. Luna, tu peux nous en dire plus ?
Tout à fait, Elina. Le programme phare permet d'identifier des élèves et des adultes qui font équipe. L'idée, c'est d'avoir des interlocuteurs pour les victimes et les auteurs de harcèlement. Tout le monde travaille ensemble pour identifier les situations et aider les élèves. Si tu veux savoir où trouver le nom de ces personnes, rends-toi à la vie scolaire ou pose la question à ton professeur principal. Normalement, il y a aussi des affiches sur lesquelles tu peux trouver le nom des élèves ambassadeurs.
Merci Luna. Mais du coup, si je suis victime de harcèlement et que je n'ai pas envie d'en parler à quelqu'un que je connais, qu'est-ce que je peux faire, Louis ?
Eh bien, tu peux t'adresser au 3018 par téléphone, de 9h à 23h, 7 jours sur 7, ou directement sur l'application. Pour plus de discrétion, si tu préfères chatter avec une personne, tu pourras préserver sur cette application un total anonymat et tu auras la possibilité de stocker des informations et des preuves en lien avec le harcèlement que tu subis. Cette application a un volet plus spécifique au cyberharcèlement et tu peux également faire un quiz qui pourra te guider et t'aider à savoir si oui ou non tu es harcelé et si dans ce cas-là, des mesures seront à prendre. Enfin, il faut savoir que plusieurs associations luttent contre le harcèlement et qu'on peut aller les rencontrer librement. Amende, tu peux par exemple aller à l'espace jeune 48 de 14h à 17h du lundi au vendredi au 14 boulevard Henri Bourillon. Il y a aussi des permanences dans plusieurs autres villes du département.
Alors si tu te sens harcelé, n'hésite pas à en parler. Il y aura toujours quelqu'un pour t'écouter.
Merci au terminal ST2S d'avoir éclairé ce phénomène de harcèlement scolaire et de nous avoir permis de comprendre un peu mieux ce qui pouvait se passer dans le lycée. Affaire à suivre donc, et surtout, si vous êtes victime, parlez-en. Nous écoutons maintenant Hermine et Jade qui vont nous permettre de passer de la santé mentale à la santé physique. Sujet des plus à propos avec l'arrivée prochaine des JO.
Bonjour à tous. Nous approchons à grands pas de la nouvelle année et avec elle des traditionnelles bonnes résolutions. On profite souvent de cette occasion pour décider de se remettre au sport. Si cela vous a traversé l'esprit mais que vous êtes encore hésitant, avec Jade, on va vous donner quelques bons arguments pour vous aider à vous décider car oui, le sport est bon pour la santé.
Tout à fait Hermine. D'abord, le sport permet de renforcer les muscles, d'améliorer l'endurance et la flexibilité et de maintenir un poids de santé. Il a donc une incidence sur notre santé et il permet de prévenir les maladies. Une activité physique régulière aide à réduire le risque de maladies cardiovasculaires, d'hypertension artérielle, de diabète de type 2 et de certains cancers, etc.
Le sport a également une incidence sur le bien-être mental. Il favorise la libération d'endorphines, des hormones du bonheur, ce qui peut aider à réduire le stress, l'anxiété et la dépression. Il améliore également la qualité du sommeil.
Et ce n'est pas tout. Le sport renforce notre système immunitaire, ce qui peut aider à prévenir les infections et les maladies.
Et nous en parlions justement tout à l'heure, le sport contribue à maintenir la santé mentale, parce qu'il renforce l'estime de soi. On a en effet une plus grande confiance en soi et une meilleure gestion du stress quand on pratique une activité physique régulière. Alors, comme dit l'adage, il faut avoir un esprit sain dans un corps sain. Faites du sport!
Merci à Hermine et Jade. Nous enchaînons sur une première pause musicale avec Outkast et son fameux titre Miss Jackson.
Yeah, this one right here goes out to all the babies, mamas, mamas. Mamas, mamas. Baby mamas, mamas. Yeah, go like this. I'm sorry, Miss Jackson.
Ooh, I am for real.
Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson.
Ooh, I am for real.
Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times.
My baby is drama, mama. Don't like me. Doing things like having the boys come from her neighborhood to the studio trying to fight me. She need to get a piece of American pie and take her bite out. That's my house. I disconnect the cable and turn the lights out and let her know her grandchild is a baby and not a paycheck. Private school, daycare, shit, medical bills, I pay that. I love your mom and everything. See, I ain't the only one who lay down. She wanna rip you up and start a custody war. My lawyer, stay down. She never got a chance to hear my side of the story. We was divided. She had fish fries and cookouts for my child's birthday. I ain't invited, despite it. I show her the utmost respect when I fall through. All you do is defend that lady when I call you.
I'm sorry, Miss Jackson.
Ooh, I am for real.
Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson.
Ooh, I am for real.
Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times.
Me and your daughter got a special thing going on. You say it's puppy love. We say it's foreground. Feel this way forever. You can plan a pretty picnic, but you can't predict the weather.
Miss Jackson. 10 times out of 9. Now if I'm lying, fine. The quickest muzzle, throw it on my mouth and I'll decline. King meets queen, then the puppy love thing. Together dream about that crib with the Goodyear swing. On the oak tree, I hope we feel like this forever. Forever, forever, ever, forever, ever. Forever never seems that long until you're grown. And notice that the day-by-day ruler can't be too wrong. Miss Jackson, my intentions were good. I wish I could become a magician to abracadabra all the sadder. Thoughts of me, thoughts of she.
thoughts of he, asking what happened to the feeling that her and me had. I pray so much about it, need some knee pads. It happened for a reason, one can't be mad. So know this, know that everything's cool. And yes, I will be present on the first day of school and graduation.
I'm sorry, Miss Jackson.
Ooh, I am for real.
Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson.
Look at the way he treats me. Should look at the way you treat me. Skillin' those ass homegirls and got your ass sent up the creek, G. Without a pad on, you left to straddle and ride this thing on out. And the union girl ain't speaking no more, cause my dick all in, I'm out. I'm talking about jealousy, infidelity, and be cheating, beating. And the N to the G, they be the same thing. But who you placing the blame on? You keep on singing that same song. Let bygones be bygones. You can go and get the hell on you and your mom.
I'm sorry, Miss Jackson.
Ooh, I am for real.
Never meant to make your daughter cry. Miss Jackson,
ooh, I am for real.
Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson.
Ooh, I am for real.
Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson.
Ooh, I am for real.
Never meant to make your daughter cry. I apologize.
Nous espérons que vous avez apprécié cette pause. Place maintenant à la rubrique Société et médias avec Lilian, qui a choisi de nous expliquer comment fonctionne l'univers des médias, qui possède quels médias et quelles sont les conséquences sur la diffusion de l'information.
Vous lisez peut-être les journaux, écoutez la radio, regardez la télévision avec des chaînes comme TF1, France 3, BFM TV ou même CNews. Mais savez-vous qui sont les patrons de ces chaînes ? En fait, les médias en France, que ce soit la presse, la radio ou même la télévision, sont très mal répartis entre les actionnaires. On estime que 90% des médias français sont répartis entre 9 à 11 milliardaires. Vous en connaissez sûrement quelques-uns. Bernard Arnault, qui possède le journal Le Parisien. Xavier Niel, qui possède le journal Le Monde. Ou encore Vincent Bolloré, qui possède CNews et Canal+. Très peu de médias sont publics, comme Radio France ou France Télévisions. Mais il existe aussi des médias indépendants, comme Le Canard Enchaîné ou Mediapart. À l'exception du Monde, qui a vu son nombre d'audiences augmenter de 12% en 2022, aujourd'hui, certains médias ne sont plus rentables. On pourra donner l'exemple de la revue de photojournalisme 6 mois qui a été contrainte d'arrêter sa publication pour des raisons économiques. Bien que toujours appréciée par une partie de la population, les médias d'information traditionnels ont cependant du mal à toucher les jeunes qui s'informent davantage sur les réseaux sociaux. Mais alors, pourquoi encore investir dans les médias qui ne sont pas rentables ? Pourquoi donc les milliardaires achètent-ils ces médias, ces sources d'information, et quelles sont les conséquences pour le public et le lectorat ? On peut trouver plusieurs réponses. D'abord, d'ordre économique, car même si la presse est libre en France, les grands patrons ont le contrôle de ce qui est diffusé dans leurs médias. Il est plus facile de faire passer sous le tapis des affaires de corruption, comme avec Vincent Bolloré au Togo. Un exemple connu de cette censure est notamment la prise de parole du député Louis Boyard, du parti politique de la France Insoumise, sur le plateau C8. En voulant dénoncer les actions du grand patron de la chaîne, il s'est fait fortement insulter par le présentateur Cyril Hanouna. En effet, la culture du clash devient de plus en plus présente dans les débats. Le but n'est plus tellement de créer un argument construit. Nous assistons plutôt à de la violence verbale pour humilier l'adversaire. Cela nous empêche de nous construire un esprit critique en laissant place à une pensée simplifiée à l'extrême et en mettant de côté le débat démocratique. Mais posséder et contrôler les médias permet aussi d'influencer les électeurs sur leurs choix politiques. On sait que le candidat de la présidentielle de 2022 qui a été le plus présent sur les plateaux de CNews et de C8 est Éric Zemmour, candidat de l'extrême droite. De plus, CNews est l'une des chaînes de télévision les plus regardées en France, avec quand même un pic d'audience de 1 210 000 personnes le 15 novembre 2023, ce qui donne une image de la sphère d'influence que détient la chaîne. Ce n'est rien comparé à BFM TV et TF1 qui se répartissaient respectivement 42 et 43% de l'audimat en 2018. Vous l'aurez donc compris, posséder des médias permet de manipuler plus facilement l'opinion publique, d'où la nécessité de diversifier ses sources. J'espère que cette rubrique vous a permis de connaître un peu mieux les enjeux qui se cachent derrière vos chaînes préférées, votre journal favori. Mais gardez en tête qu'il faut toujours garder un esprit critique vis-à-vis des informations que l'on voit passer. En tout cas, Tech News, nous sommes totalement indépendants.
Sans vouloir verser dans la paranoïa, nous vous proposons avec Noah un autre exemple d'une situation où il faut faire preuve d'esprit critique et de raison pour lutter contre les mécanismes de manipulation. En effet, nous allons vous parler des jeux d'argent et de leurs dangers.
Passé Noël, voici venir la période des soldes qui permet à certains d'entre nous de réaliser quelques économies bienvenues. Mais d'autres sont plus dépensiers.
Focus sur les jeux d'argent et la façon dont ils nous incitent à nous dépouiller de notre moindre centime. Ces jeux sont omniprésents, autant en ligne que dans la réalité. Alors, comment réussissent-ils à nous faire ouvrir notre portefeuille ?
En effet, voici quelques chiffres significatifs pour que vous mesuriez la gravité du problème. Selon l'OMS, rien qu'en 2016, les pertes annuelles mondiales dues aux joueurs étaient estimées à 400 milliards de dollars. En 2019, en France, près d'une personne sur deux déclare avoir joué au moins une fois dans l'année un jeu d'argent et de hasard. Dans les ménages, les jeux d'argent représentent en 2020 près de 11% des dépenses liées aux loisirs et à la culture, soit environ 190 euros par an et par foyer. En réalité, ce chiffre cache une très forte disparité. Selon Santé publique France, en 2019, si une majorité des joueurs ne consacrent que des sommes modestes à leur activité de jeu, un joueur sur 10 dépense plus de 1000 euros par an.
La première raison de l'engouement derrière les jeux d'argent est, sûrement la plus évidente, c'est l'aspect émotionnel. Ces jeux créent une expérience sensorielle unique qui peut parfois déséquilibrer notre jugement rationnel. En effet, c'est l'excitation d'avoir les bons chiffres alignés sur la machine à sous ou bien une suite au poker. C'est ce frisson qui nous fait oublier notre situation financière et qui peut nous faire perdre beaucoup.
Cette sensation est causée par la dopamine. Cette substance chimique présente dans notre cerveau fait fonctionner le système de récompense. Cette même matière qui nous rend addicts à l'envoi des flammes sur Snapchat, par exemple. Elle est donc très présente chez les joueurs, renforce sa compulsivité et lui fait baisser sa vigilance sur des situations risquées. Les lumières vives, les sons stridents et les animations captivantes lors d'une victoire contribuent à libérer de la dopamine, créant ainsi une sensation d'excitation et de satisfaction. Cette stimulation rend les jeux d'argent incroyablement addictifs pour certaines personnes, les incitant à continuer à jouer malgré les pertes financières.
Cependant, derrière le voile de l'amusement et du divertissement, les jeux d'argent peuvent avoir des conséquences dévastatrices pour les individus et leurs proches. La dépendance aux jeux peut mener à des difficultés financières, à des problèmes de santé mentale, à des conflits familiaux et à d'autres conséquences graves.
Pour contrer ces manipulations, il est crucial d'adopter une approche éclairée et responsable des jeux d'argent. Il est essentiel de comprendre les risques associés et de fixer des limites strictes en termes de temps et d'argent consacrés aux jeux. La sensibilisation aux tactiques de manipulation utilisées par l'industrie du jeu est également primordiale pour éviter de tomber dans ces pièges.
Les jeux d'argent peuvent donc être une source de divertissement pour certains, mais ils sont souvent entourés de techniques sophistiquées de manipulation. En prenant conscience de ces stratégies et en adoptant une approche responsable, il est possible de limiter les effets néfastes et de profiter de ces jeux de manière saine et contrôlée.
Nous laissons maintenant la place à des sujets plus légers et nous continuons dans le milieu du jeu avec la rubrique « Loisirs ». En laissant la parole à Esteban, qui va nous parler des jeux de rôle.
Qui n'a jamais rêvé d'incarner un elfe mage devant sauver des contrées lointaines dans des mondes surpuissants ? Pas vous ? Pourtant, c'est là tout le principe des jeux de rôle. Des jeux de société où vous pouvez incarner et faire ce que vous voulez. Je vous présenterai donc aujourd'hui 4 jeux de rôle pour bien débuter dans cet univers fantastique. Rapidement avant de commencer, notez que les jeux de rôle se jouent à plusieurs. Désolé à mes amis les introvertis, mais ce n'est pas pour vous. Quoique. Habituez-vous aussi au concept de joueur, ceux qui suivent l'histoire, qui jouent quoi, et de MJ, ceux qui ne jouent pas mais racontent l'histoire et décrivent les événements. Maintenant, on peut commencer. Si vous n'avez jamais joué à des JDR, je vous conseille les kits d'initiation. Ce sont des coffrets contenant des dés essentiels dans le JDR qui remplacent toutes les valeurs de hasard, un scénario assez simple pour la première partie, des fiches personnages et des illustrations pour mieux visualiser les scènes. Je vous conseille personnellement le kit Chroniques oubliées Cthulhu, qui vous plongera dans un univers contemporain avec sa dose de mystère, d'horreur, de réflexion et d'aventure. Il coûte une 50aine d'euros, mais rassurez-vous, il en existe d'autres pour moins cher. Parlons maintenant du père, du créateur, que dis-je, du dieu des jeux de rôle, Donjons et Dragons. Le plus connu et le meilleur de tous, il est très descriptif, et vous trouverez des accessoires de base pour y jouer, gratuitement en plus, sur le net. Attention cependant, D&D est un jeu de rôle plus compliqué, ce n'est pas pour faire votre première partie. Si vous aimez D&D, mais que vous n'aimez pas le réalisme et le sérieux du jeu, foncez sur Donjons et Chatons. Cette variante propose relativement le même contenu que l'original, mais en plus kawaii avec des chats. C'est à une quarantaine d'euros et déjà plus accessible aux débutants. Et pour ceux qui n'aiment pas l'imagination et le papier, les jeux de rôle sur plateau devraient vous plaire. Je vais prendre dans ce domaine Talisman, qui reprend tous les codes d'un jeu de rôle classique, mais avec un support plateau en bonus. Allez checker le jeu avec ses extensions, c'est assez impressionnant à voir. En vrai, vous aurez remarqué que les clichés des 4 203 722 pages n'est pas toujours réel, mais si la plupart proposent un livret de règles simplifiées en seulement une dizaine de pages, ce qui permet au plus grand nombre de s'aventurer dans cet univers. Je vous dis ainsi au revoir, et je repars en effectuant mon jet de discrétion.
Merci Esteban. Tout cela est très riche, notamment parce qu'il existe une grande variété de jeux. Et c'est pourquoi, Esteban, tu souhaites nous faire part d'un autre type de jeu, les jeux gacha.
Les jeux gacha, une catégorie de jeux à part où les joueurs dépensent des sommes astronomiques pour un tas de pixels. Ce serait sûrement une bonne description pour ces jeux. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter le bon côté de ces œuvres, en vous faisant peut-être découvrir ces 4 jeux gacha. Bon, vous écoutez ça et vous vous demandez sûrement ce qu'est un jeu gacha, non ? Eh bien, en fait, le gacha, c'est pas vraiment un type de jeu, c'est plutôt une mécanique qui se base sur l'invocation de personnages en passant par l'utilisation de ressources. L'invocation des personnages se fait souvent via des onglets spéciaux et vous avez une probabilité d'obtenir chaque personnage. Comme premier jeu, je vous présenterai Project Sekai, ou appelé Colorful Stage en Europe. C'est un jeu de rythme à la Piano Tiles, mais dont le personnage principal est Hatsune Miku. Oui, le jeu est japonais, donc c'est normal. Vous y choisirez votre groupe parmi les 5 proposés, et jouerez les covers de musique des membres de votre groupe, en utilisant le fameux système à la Piano Tiles. Le système gacha vous permet d'ici d'invoquer des autres chanteurs ou variantes de ceux que vous possédez déjà. Ils vous donneront des bonus sur vos scores lors de vos parties. Bon, le jeu n'est qu'en anglais pour l'instant, mais il reste simple à suivre pour les non-bilingues. Et pour ceux qui y jouent, vous comprendrez si je vous dis Wonderhoy. Pour ceux qui préfèrent les scénarios originaux, je vous présente une valeur sûre, Reverse 1999. Ce jeu développé par Blue Poch est assez récent puisqu'il n'est sorti que fin octobre 2023. On y suit Vertine, une arcaniste, les utilisateurs de la magie dans ce monde, qui est capable de résister aux effets de la tempête, un phénomène qui remonte et altère le temps sans que l'on s'en rende compte. Elle affrontera des ennemis comme Anus Vindictae, une mystérieuse organisation, ou la fondation Saint-Pavlov, un institut recueillant les jeunes arcanistes mais qui cache des secrets. Le système gacha permet ici de tirer des personnages que vous pourrez utiliser lors des combats. Le système de duel est d'ailleurs un peu différent des autres jeux, puisqu'on y affronte des ennemis au tour par tour, à l'aide de cartes que l'on utilise ou fusionne. Le jeu est excellent, mais n'est pour l'instant qu'en anglais. C'est dispo sur Android et PC. Pour finir, comment parler des gacha sans parler du plus connu, j'ai nommé Genshin Impact. Ce jeu en open world, développé par Yoverse, nous fait incarner le voyageur, une personne qui pouvait voyager entre les mondes avec son frère ou sa sœur, mais qui a perdu ses capacités et son jumeau lors d'un combat contre une mystérieuse déesse. Les bannières, ensemble de récompenses du gacha, rapportent des sommes astronomiques sur ce jeu, et les critiques les notent presque toutes comme un jeu excellent, qui a d'ailleurs de beaux jours devant lui, avec des mises à jour très fréquentes. En résumé, les jeux gacha sont des jeux où vous pourrez dépenser certes des millions, mais la plupart vous pourrez jouer totalement gratuitement en y prenant du plaisir. Le système gacha étant d'abord le système principal permettant la collection de personnages, permettant d'avoir d'autres objectifs que le jeu de base. Je vous dis donc au revoir, et sur ce je retourne jouer à Genshin farmer les primogèmes.
Autre chroniqueur, autre ambiance avec Tristan qui va nous parler des jeux d'horreur, qui va nous expliquer comment ces derniers arrivent à susciter la peur chez les joueurs.
Avez-vous déjà tellement tremblé de peur devant un film d'horreur que vous n'osiez plus rejoindre votre chambre ? Ça nous est déjà tous arrivé, mais ça arrive aussi dans l'univers du jeu vidéo. Certains jeux vidéo, plus particulièrement les jeux d'horreur, sont conçus pour susciter la peur chez le joueur. Mais concrètement, comment cela est-il possible ? Il faut plusieurs éléments qui, pour beaucoup, relèvent de la direction artistique. On commence tout d'abord par l'ambiance, visuelle et sonore. Cela peut passer par l'absence de visibilité, qui empêche d'anticiper ce qui va se passer, et qui est associée à des bruitages ou une musique qui crée de la tension. Les effets sonores et visuels permettent de surprendre le joueur. Que ce soit réaliste ou pixelisé, les graphismes ne sont pas la chose la plus importante, car une ambiance bien travaillée peut être terrifiante à elle seule. Selon moi, l'histoire reste très importante pour l'immersion du joueur dans le monde du jeu. Il y a de très bons jeux d'horreur sans histoire, mais globalement, une histoire qui fait peur est une histoire dans laquelle on trouve un très bon scénario et des personnages attachants qu'on aura peur de perdre. Contrairement à un film, où on peut fermer les yeux, se boucher les oreilles ou alors mettre une distance entre soi et les personnages, dans un jeu d'horreur, c'est vous le personnage. Par conséquent, si on veut avancer dans le jeu, il faut jouer. Alors oui, on peut mettre le jeu au placard et ne plus jamais y jouer, et je critique personne, je l'ai fait moi aussi. Mais on peut aussi essayer de jouer, braver sa peur, ou alors même y jouer avec quelqu'un si le jeu est jouable en coopération, ou juste se passer la manette. Ça peut déjà être un bon début pour se lancer dans ce vaste monde. À force de jouer à des jeux d'horreur, certaines personnes n'ont plus, ou beaucoup moins peur. Par exemple, je ne pouvais pas toucher à un jeu d'horreur, jusqu'à ce que je commence à jouer à Dead by Daylight. On peut penser que les jeux d'horreur ne suscitent que la peur, mais certains peuvent nous faire passer par des émotions diamétralement opposées. On peut par exemple penser à Lethal Company, qui nous fait osciller entre peur, panique et grand éclat de rire grâce notamment à sa dimension coopérative. Au début, même en jouant avec des amis, j'étais terrifié. Puis après 2 heures de jeu, c'est devenu une habitude, et à force d'y jouer, j'ai développé une espèce d'immunité face à ces jeux. Est-ce que j'ai encore peur? Bien évidemment, mais pas autant qu'avant, et pas sur tous les jeux d'horreur. Est-ce pour autant que je suis devenu insensible à la peur et à l'horreur?
Alors merci beaucoup à Tristan pour sa chronique qui s'intéresse donc aux effets que les images horrifiques issues du jeu vidéo en particulier peuvent avoir sur le joueur, comment elles peuvent le mettre dans une ambiance qui suscite la peur, l'effroi, la crainte, parfois le stress, dans un côté immersif que les jeux vidéo ont particulièrement travaillé. Alors le débat que je souhaitais engager à la suite de cette chronique porte sur justement l'effet plus largement des images horrifiques ou violentes issues du monde de la fiction, donc jeux vidéo, cinéma, séries, sur le spectateur. Je m'explique. La question qu'on pourrait poser à propos de ces images horrifiques et violentes qu'on voit très souvent quand on est joueur cinéphile ou tout simplement spectateur lambda de séries, la question qui se pose, c'est celle de l'effet de ces images sur notre conscience et sur notre comportement par la suite. La question est de savoir si ces images violentes et horrifiques stimulent en quelque sorte la violence en nous, si elles nous rendent nous-mêmes d'une certaine manière aptes ou enclins à la violence, ou si au contraire elles nous permettent de nous expurger de cette violence qui serait en chacun de nous, en la montrant, en l'affichant, et finalement elles nous permettraient de nous en libérer. Alors plusieurs exemples contemporains viennent illustrer un peu ce débat. Récemment, la série Squid Game coréenne posait cette question. Dans cette série, on assiste à un jeu, une sorte de 1-2-3 soleil violent, où celui qui perd est tout simplement éliminé, au sens strict, tué. Ça s'est répercuté, on l'a vu, dans des cours de récréation collégienne, où des élèves se sont mis à imiter ce jeu violent, en se lançant parfois des objets à la figure, ce qui a donné lieu à des blessures parfois très sérieuses, hein, de la part de ces élèves. Ou encore, on peut penser à ces tueurs de masse aux États-Unis, dans un registre plus tragique encore, qui très souvent se revendiquent du jeu vidéo en se filmant en vue à la première personne ou tout simplement en faisant référence à des jeux qu'eux-mêmes ont pratiqués. On pourrait élargir comme ça la liste de tous ces exemples d'images horrifiques ou violentes qui peuvent susciter chez le spectateur un effet double, soit d'exciter la violence en lui, soit de la purger. Et j'en donne un dernier, le film sorti en 1994, réalisé par Oliver Stone aux États-Unis, intitulé « Tueur né », mettait en scène un couple de tueurs qui pratiquaient des meurtres en série aux États-Unis. Ce film a été visionné par des millions d'Américains. Il se trouve que deux d'entre eux, un homme et une femme, en couple également, se sont mis à imiter cette chose-là en commettant des violences et finalement un meurtre aux États-Unis en 1995. Ces deux personnes ont bien dit lors de leur procès qu'elles avaient vu le film, qu'elles s'en étaient inspirées pour agir. La question était donc de savoir si le film d'Oliver Stone avait la responsabilité de ces actes en ayant incité ces personnes à commettre des actes violents. Voilà donc toute la question qu'on peut poser à propos de ces images horrifiques et violentes issues du cinéma ou du jeu vidéo. Et je laisse place au débat sur cette question de savoir si ces images nous libèrent de la violence ou si au contraire, elles la provoquent.
Moi, je voudrais revenir sur le problème des tueries aux États-Unis et je pense que le problème n'est pas forcément sur les jeux vidéo ou les images violentes, même si les tueurs se revendiquent joueurs de jeux vidéo violents ou qui regardent des séries ou des films violents. Je pense que le problème est peut-être autre part, surtout sur l'achat des armes à feu facilitées aux États-Unis et pas forcément sur les images violentes qui peuvent peut-être être certainement un déclencheur, je ne le nie pas, mais peut-être que d'autres problèmes se cachent aussi derrière ces tueries. Personnellement, je pense que pour les images violentes, il faudrait avoir un certain esprit critique et se dire que ce n'est que de la fiction, que ben il faut pas s'en inspirer pour faire des choses absolument horribles. Mais d'un certain côté, c'est vrai qu'elles peuvent être un peu très très violentes, ces images.
Alors, personnellement, je suis un grand fan de jeux d'horreur. J'en ai fait un nombre incalculable. Et même autre que des jeux d'horreur, je fais beaucoup de jeux de tir, des jeux FPS, des Battle Royale. Et pourtant, j'ai pas un tempérament violent, loin de là, c'est tout le contraire. Je pense que c'est pas forcément uniquement une question de violence à cause des jeux vidéo, c'est aussi la personne, car elle va adopter le comportement du jeu vidéo, mais pas forcément. Certaines personnes pourront juste jouer, d'autres vont plutôt être du style à imiter tout cela. Les images sont plutôt un déclencheur, mais c'est pas ce qui va causer à 100% tout cela.
Pour rebondir sur ce que Monsieur Vandel a dit sur Squid Game, je pense qu'il devrait avoir une adaptation et un âge pour regarder certaines images violentes, parce que comme il a dit, ça a été reproduit dans les collèges et les lycées, et peut-être qu'ils sont un peu trop jeunes pour voir ce genre d'images qui pourraient du coup les inspirer, parce que quand on est jeune, on cherche un peu, pas quoi faire, mais on cherche un peu et on imite ce qu'on voit et ce que les grands nous montrent, en quelque sorte, et que si on est trop jeune et qu'on nous montre des images de violence qui passent pour un jeu, on peut être plus souvent poussé à les imiter, à essayer, et du coup à faire reproduire des comportements qu'on ne devrait pas reproduire avec nos camarades, être violent, être agressif, et que ce n'est pas ce qu'on devrait voir dans une cour de récré, dans un collège, dans un primaire, ou dans un lycée. Je ne pense pas que ça ait été reproduit, parce qu'on est censé être plus mature, même si des fois j'ai des doutes, mais normalement, c'est bon.
Squid Game n'est pas forcément à la naissance des violences. Au collège ou à l'école, on n'a pas attendu de voir des séries pour faire des jeux fondamentalement violents. C'est le 1, 2, 3 soleils de Squid Game vient de là, et il y a déjà eu des jeux plus violents dans n'importe quelle école. On n'a pas attendu des séries ou de voir ça pour le refaire. Et même à l'époque de nos parents ou de nos grands-parents, des écoles violentes, des collèges violents, ça s'est tout le temps fait. C'est pas avec l'arrivée des séries que ça a vraiment augmenté.
Le problème, ce n'est pas l'existence de la série, c'est tout à fait banal de créer une série avec des violences, c'est plutôt sa limitation, car beaucoup de jeunes l'ont regardé alors qu'ils étaient à l'école. Squid Game a une limitation d'âge, mais n'importe qui peut aller sur un site, une plateforme de vidéo, regarder des choses qui ne sont pas de son âge. Il n'y a quasiment aucun contrôle, et c'est surtout là le problème des violences à cause des images.
Donc on a beaucoup parlé des images violentes issues de la fiction, que ce soit jeux vidéo, séries, films, et en quoi ces images pouvaient banaliser ou pas la violence. Mais on n'a pas du tout abordé pour l'instant la question des images réelles, extrêmement violentes, trash, et en quoi ces images bien, qui sont d'une telle violence qu'on ne peut pas dire qu'elles sont tolérables, acceptables, eh bien, en quoi ces images provoquent chez nous des réactions, des émotions, et surtout, eh bien, pourquoi est-ce que malgré ces émotions et ces réactions extrêmement désagréables qu'elles provoquent chez nous, eh bien, on continue de regarder ces images. Pourquoi est-ce que ces images peuvent faire, par exemple, des millions de vues sur les réseaux sociaux malgré leur contenu extrêmement dérangeant?
En effet, il y a par exemple eu, tout le monde en parle, la vidéo du chat dans un mixeur. Et en effet, c'est interdit de mettre un chat dans un mixeur. À ma plus grande surprise, je ne le savais pas. Hein. Et justement, les gens aiment ce qui est interdit car justement, ils ne peuvent pas le faire. Si quelqu'un le fait pour eux, ils vont apprécier et ça va en... entre guillemets, quelque part, combler leur manque d'interdit. Certains vont voir ça et vont vouloir le reproduire. Mais ça va être surtout que des personnes pourraient aimer ce qui est interdit. Ces vidéos font donc des millions de vues, du coup elles tournent plus et d'autres personnes la voient. C'est une boucle infernale, un cercle vicieux en somme.
Je suis en profond désaccord avec toi, Esteban. Je pense que les gens voient ce contenu, mais qui ne leur est pas destiné en premier abord. Juste que il y a une interaction à propos de la vidéo en premier lieu, qu'elle fait réagir dans le mauvais sens du terme, et qu'au fur et à mesure des réactions négatives, elle fait de plus en plus de buzz et elle est diffusée au grand jour. Je pense que ce contenu reste minoritaire et j'espère qu'il reste minoritaire sur les plateformes de réseaux sociaux. Et je pense qu'au lieu de réagir, de laisser des commentaires, de liker ces posts, il faudrait juste les signaler pour que personne n'ait affaire à ces contenus et à avoir à les regarder.
Alors pour conclure le débat et pour ouvrir dans une perspective un peu plus large, on a parlé des images horrifiques dans les jeux vidéo, on a parlé des images violentes dans les films, les séries, on a parlé des images réelles, trash, choc, violentes également, qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Si on fait la synthèse de tout ça, on peut dire qu'on est surexposé aujourd'hui à des images choquantes. La question est de savoir, est-ce que cette surexposition nous rend totalement insensibles ? Et vous, au premier abord, qui êtes la génération qui baignait peut-être le plus dans les images, comment vous expliqueriez votre rapport à ces images ? Est-ce que ça vous a rendu déjà insensible, imperméable au choc ? Ou est-ce que, au contraire, vous restez plus alerte à ce qui se passe dans la société grâce à toutes ces images que vous voyez ? Comment vous estimez ça ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous met dans une bulle et vous ferme à la violence du monde, ou est-ce qu'au contraire, vous y êtes totalement immergé ?
Les images d'aujourd'hui que beaucoup de personnes peuvent voir, du moins notre génération, qu'on baigne dedans, ça ne nous rend pas forcément imperméables aux choses choquantes et tout. Quand on compare, par exemple, aux personnes qui, elles, voient sans intermédiaire des cadavres ou des bains de sang en masse... on peut dire que eux vraiment, ça les touche beaucoup plus profond et du coup, ils seront forcément plus imperméables face à ce genre de situation que nous qui le voyons avec un intermédiaire. Donc, on a un peu plus de recul sur les choses et on ne prend pas forcément hyper conscience de ce qui se passe réellement.
Alors, personnellement, je pense que les personnes peuvent... ou non devenir imperméable, tout dépend un peu de leur personnalité. Personnellement, récemment, j'ai eu un exposé à faire sur le Hamas, et donc j'ai eu une présentation à faire, et j'ai été facilement et très très vite confronté à des vidéos de personnes se faisant tirer par balle, et je n'ai pas été choqué par ça, simplement parce que je pense que avec tout ce qu'on a autour, en plus des médias, comme par exemple les jeux vidéo, les films et tout ça, on est habitué à ce genre d'images, en tout cas des images de personnes qui se font tirer dessus, par exemple. Et donc, on associe plus facilement ce genre d'images à, par exemple, des images de fiction, inconsciemment, bien sûr, et donc, on est moins choqué.
Merci à toute l'équipe pour cet échange. Place maintenant à une deuxième pause musicale. Nous allons écouter La Source de 1995.
Yeah! Un double 9-5 pour un, retour à la source, décollage imminent. Call à l'jouin, les gars de mon poste supportent le mouvement. J'dis fuck et fous le camp, car le rap c'est froc, mais c'est tout le temps. Puis reviens réglo, chacun de mes flots choque les petits les grands. Alors sort de la dilettante, voilà l'équipe qui sort du lot. Un sac majeur bien efficace, ambiancé par l'homme DJ Low. Et les types sont carrés frères, avec des rimes qui percutent. Une horde de zoulous derrière et 2-3 gars, j'y les. Mes parents se doutent de rien, pensent que la school me tient par les couilles. Donc j'taffe l'année jour et le soir devient l'idole des foules. Ouais, et la capitale bouge la tête, hip hop. De nouveau prendre l'ampleur, j'y chante mon envie de conquête. La musique, ma source, et les loups, j'asteste. T'hallucines car ma troupe a le groove dans les veines.
On prend le rap à la source.
Stream sample et flow.
Un 995,
l'équipe qui te met des chiffres au micro.
En 2-0, double 1, on rentre dans le jeu et les cartes changent de main. Donc lève les tiennes, on kick sec aujourd'hui comme demain.
On prend le rap à la source.
Stream sample et flow.
Un 995,
l'équipe qui te met des chiffres au micro.
En 2-0, double 1, on rentre dans le jeu et les cartes changent de main. Donc lève les tiennes, on kick sec aujourd'hui comme demain.
J'suis sur ma partition, y'a pas de limite dans la rythmique, contrairement à la religion. Mais Marliche, le rap et la force, cette voix me rend fort. Que vois-je, le diable nous fait danser dans la boîte de Pandore. Ici pour vivre du son, on te fiste le fion. Donc je glisse, je chill, car je rime pour dealer du bon. J'ai la maîtrise du ton, de savoir nous faire ça. Mes potes sont pas des Saint Bernard, mais ils flairent ça. Les Nikes, je sais mettre ça, les flows, je sais faire ça. Cosmos avec le chrome d'or, il faut que tu guettes ça. Les sources en est des tas, des dizaines. Nas et Bigel, Jay-Z, AZ, bref, les flots qui glacent l'épiderme. Le flow est une des sources, comme on paraît le village du bled. Fragile, nostalgique, fan, mais quel chiard tu fais. J'esquive tempête pour vivre dans le rêve. Y'a pas de fric, mais je rime sans cesse avec ma team dans le
set. On prend le rap à la source.
Rime sample et flow.
Un 995,
l'équipe qui te met des chiffres au micro.
En 2-0, double 1, on rentre dans le jeu et les cartes changent de main. Donc lève les tiennes, on kick sec aujourd'hui comme demain.
On prend le rap à la source.
Rime sample et flow.
Un 995,
l'équipe qui te met des chiffres au micro.
En 2-0, double 1, on rentre dans le jeu et les cartes changent de main. Donc lève les tiennes, on kick sec aujourd'hui comme demain.
Le rap est ému demain, donc laisse nous faire. On vient barrer le passé pour tracer une ère nouvelle. Ambiance petite frappe dans la ville, je zigzag. Sans la tisse, tu kiffes ça. Je laisse des stigmates sur ta figure comme une fuite d'eau. J'avoue, je me la coule douce. Je prends pas de quid pro, j'affronte tous mes coups de blues. Les mecs sont vifs, font kiffer poteau. Qu'est-ce qu'on dit, Matt? C'est de la rime fat et pas de la cesse qu'on dit. Un 995 dans le game, l'impression que ça fait des lustres. Demande à Jazz, il te dira qu'il en a graffé les rues.
Vrai génie qui démarqueur, mais j'ai dit que j'étais rappeur. Donc je prends le mic, fais des rappeurs et je vais le kicker avec quart d'heure. Je crée un disque et les crétins disent ce gars là ce goût. Mais nique les vieux détours, je veux renaître tour à la sous. Donc je la cherche comme la fraîche, les mains dans les poches tard. Mais à part mes points, j'ai rien que des joints dans des poches tard. Même si l'haché cher, je lâche cher dans ton quartier. Pendant que des fonds blards font de l'art, je lâche des verres devant ton carrier.
On prend le rap à la source.
Stream sample et flow.
Un 995,
l'équipe qui te met des chiffres au micro.
En 2-0, double 1, on rentre dans le jeu et les cartes changent de main. Donc lève les tiennes, on kick sec aujourd'hui comme demain.
On prend le rap à la source.
Stream sample et flow.
Un 995,
l'équipe qui te met des chiffres au micro.
En 2-0, double 1, on rentre dans le jeu et les cartes changent de main. Donc lève les tiennes, on kick sec aujourd'hui comme demain.
J'ai été épuisé à la source de milliers de fontaines de jouvence mêlées à la foudre et au vivier de conquêtes émouvantes. Tissé par la foule pour oublier que ton père est souffrant. Opéré souvent, mais suffit d'un son trompette et tout change. Avant que je naisse dans une messe au contexte éprouvant. Avant que ne se lève le glaive d'une jeunesse trompette et touchante. Ouais petit, on dirait bien que le ciel a trompé tes louanges. Les anges attendent des dénouements étranges, des contrées étouffantes. Ce monde est dégoûtant et de tout temps je peux compter des moutons. Leur nombre est déroutant, j'essaie pourtant tout pour rester coupant. Tous sont laissés pour compte, où sont les vraies souffrances. Nous sommes de cette douce France où le rêve est troublant.
On prend le rap à la source.
Dans cette course technologique, dans cette foule métropolitaine où tout est trop logique, où t'es toutes ces sonorités. La source est trop torride comme les boules des portoricaines. Écoute les prototypes.
On prend le rap à la source.
Stream sample et flow.
Un 995,
l'équipe qui te met des chiffres au micro.
En 2-0, double 1, on rentre dans le jeu et les cartes changent de main. Donc lève les tiennes, on kick sec aujourd'hui comme demain.
On prend le rap à la source.
Stream sample et flow.
Un 995,
l'équipe qui te met des chiffres au micro.
En 2-0, double 1, on rentre dans le jeu et les cartes changent de main. Donc lève les tiennes, on kick sec aujourd'hui comme demain.
À 995, on arrive dans ce putain de bise. À la source, on va chercher des putains de hits. À 995, on arrive dans ce putain de bise. À la source, on va chercher des putains de hits.
En
reste dans les jeux, mais on change d'univers, pour partir du côté des JO. Vous savez sûrement que des JO se tiendront en 2024 à Paris. Alors, pour préparer cet événement, Joseph et Malo vont présenter les athlètes français qu'il faudra avoir à l'œil. Ces derniers pourront peut-être nous ramener quelques médailles.
Bonjour à tous. L'année prochaine, la France va être bouleversée par les Jeux Olympiques, qui auront lieu ici même. Forcément, on aimerait voir des Français y performer, et pourquoi pas, nous ramener une médaille. Avec Malo, nous avons décidé de vous parler des talents cachés français, pas encore bien connus du grand public, mais sur lesquels nous allons parier une petite pièce pour ces JO.
Nous allons commencer par aborder un sport de combat, la boxe anglaise, connu comme le sport de combat qui nécessite le plus de précision. Eh bien, c'est dans cette discipline qu'un Français a su se démarquer. Il s'agit de Makan Traoré, jeune talent de 23 ans, qui a réussi à se qualifier suite à une troisième place lors des Jeux européens de Pologne dans la catégorie des moins de 71 kg. Les catégories de poids servent à garantir un équilibre dans les rencontres. Ce prodige français se trouve dans une des catégories les plus compliquées, car énormément de gens s'y trouvent. Nous avons choisi de vous parler de ce sportif, car premièrement, c'est sa première participation aux JO. Ensuite, peu de personnes doivent le connaître. Et surtout, il incarne bien les valeurs de son sport et étant humble et respectueux. Nous espérons beaucoup de lui lors de ces JO.
Nous changeons maintenant de sport et d'univers, car nous allons vous parler de beach volley, sport qui se joue par équipe de deux. Bien que les qualifications ne se soient pas encore déroulées et que ces athlètes ne soient pas sélectionnés, nous allons vous parler de Arthur Canet et Théo Rotard, un jeune duo qui rentre à peine dans le chemin pro en ayant tout de même remporté les championnats du monde U19 et ils ont aujourd'hui 19 ans. Nous les voyons donc se qualifier aux JO et aller loin dans les rencontres. En effet, ces deux-là ont les moyens et l'envie d'y arriver. Ils sont encadrés par le dernier Français à avoir participé aux JO de beach volley, le père d'Arthur. Il y a donc ici une belle image d'un fils qui suit les pas de son père. Une source de motivation que l'on voit comme décisive dans ses qualifications et qui, on l'espère, nous offrira un beau palmarès pour ces joueurs.
Approchons-nous maintenant du monde de l'escalade avec Oriane Berton, 18 ans, et déjà qualifié dans les catégories du combiné. En effet, en escalade, il existe différentes façons de grimper. Nous pouvons trouver des courses de vitesse et des petits blocs très difficiles, mais pas longs ni hauts, où la difficulté est de réaliser la voie du côté le plus dur possible. Car oui, dans le monde de l'escalade, chaque voie a un niveau de difficulté noté de 1 à 9, 9 étant le plus dur et de A à C, C étant le plus dur. Ici, nous allons nous intéresser au combiné comme son nom l'indique, il regroupe les trois épreuves en même temps. Il nécessite donc d'être complet et à un niveau d'exigence hors norme. C'est pour cela que nous vous parlons de Oriane Berton, car seulement 18 ans, elle arrive à répondre à toutes ses exigences. Il y a énormément d'espoir qui pèse sur ses épaules, que ce soit pour les JO ou pour la suite.
Des pépites françaises, nous pourrions vous en parler pendant des heures. Il en existe tellement et nous sommes sûrs d'assister à leur percée lors de ces JO, même si en soi, ces qualifiés aux JO est déjà phénoménal. Voilà, nous vous conseillons donc de suivre ces quatre sportifs derrière vos écrans ou en présentiel. Nous les voyons aller loin et donner une bonne image de la France, en espérant qu'au moins un de ces trois sports vous intéresse et que vous aurez l'envie de suivre l'avancée de nos sportifs.
Merci Joseph et Malo. Certains athlètes vont découvrir les JO pour la première fois, tandis que d'autres les ont déjà vécus. Nous écoutons maintenant une interview réalisée par Sohan, qui a eu la chance de pouvoir rencontrer Marion Buisson en décembre dernier.
Alors je m'appelle Marion Buisson-Levic, je suis une ancienne perchiste, je suis originaire de Mende et voilà, je suis actuellement enseignante de PS.
Pourquoi le saut à la perche et pas un autre sport ?
Alors le saut à la perche parce que je suis arrivée à Clermont-Ferrand en première pour faire un sport-études à Clermont-Ferrand athlétisme. Et j'ai découvert là-bas le saut à la perche, parce que c'est une grande école de saut à la perche à Clermont-Ferrand. Donc on m'a orientée vers cette épreuve, étant donné que j'avais fait beaucoup d'escalade, beaucoup de gym avant. Voilà, ils ont pensé, et ils ont assez raison, que j'avais des prédispositions pour cette discipline.
Avez-vous des regrets par rapport à votre carrière ?
Oui, je crois que je nourris effectivement des regrets. Alors je me demande souvent si tous les sportifs, les anciens sportifs ont des regrets sur leur carrière. Oui, je pense que j'aurais dû faire mieux, j'aurais dû sauter beaucoup plus haut. Après, j'essaye de faire un travail des fois sur moi pour essayer de retenir ce qu'il y a eu de beau et pas voir forcément le verre à moitié vide, mais plutôt à moitié plein.
Regrettez-vous votre adolescence par rapport aux fêtes, boîtes de nuit, soirées que vous aurez pu faire avec vos amis ?
Alors pas du tout. J'ai eu tellement de satisfaction et d'émotion sportive que je trouve que ça a comblé tous ces potentiels manques. Donc non, j'ai pas du tout de regrets sur des sacrifices que j'aurais pu faire. J'ai presque tout gagné à avoir cette jeunesse là.
Auriez-vous pensé participer aux JO en venant de Mende?
Alors non, c'est vrai que souvent les gens me demandent, t'en rêvais quand t'étais petite? Et pas du tout. J'adorais le sport, vraiment j'en faisais énormément et j'aimais beaucoup ça. Mais j'ai jamais eu comme objectif d'un jour être une championne de saut à la perche. Ça s'est fait tout seul, naturellement. Et avec énormément de plaisir. Je pense que ça a été mon moteur et ce qui a permis que je fasse ces performances-là.
Parlez-nous un peu de votre expérience aux Jeux Olympiques, s'il vous plaît.
Alors bon, je pourrais en parler des heures, donc il va falloir que je choisisse aussi un peu mes mots et puis les moments les plus marquants pour moi. Non, ça a été une expérience extraordinaire, hors du temps. C'est vrai que des fois, je me demande si ça a vraiment existé, parce que même si ça a duré 3 semaines, c'était tellement intense que des fois, j'ai du mal à me souvenir de tout. Mais je repense à la cérémonie d'ouverture, par exemple, qui a été très, très, très marquante pour moi. Peut-être un des meilleurs souvenirs. Le plus intense en tout cas, mais plein d'autres moments qui me reviennent de temps en temps. Et c'est pour ça que j'aime bien, alors je le fais très peu souvent, mais j'aime bien pouvoir en discuter avec les gens parce que ça fait ressurgir des souvenirs qui commencent à être un peu lointains. C'était quand même en 2008. Et donc j'apprécie de les faire ressortir.
Avez-vous une anecdote à nous confier par rapport aux Jeux Olympiques, soit à la perche, et si vous avez déjà cassé une perche ou non, ou ce genre de choses?
D'accord. Alors une anecdote aux Jeux Olympiques, alors je réfléchis comme ça, il y en a quand même eu beaucoup. Qu'est-ce que je peux vous raconter, parce que je peux pas tout vous raconter parce que les JO, c'est voilà, il y a l'avant JO, il y a la compétition sportive et puis il y a toute la fête qui suit, où là on profite énormément. Et du coup, c'était vraiment des moments de partage exceptionnels. Donc voilà, sans rentrer dans les détails, c'est vrai que il y a eu plein de moments avec des grands sportifs, voilà, d'échanges très sympas. Concernant la perche qui se casse, c'est ça que vous m'avez demandé? J'ai déjà cassé des perches, moi, oui, effectivement, mais par chance, elles se sont à chaque fois cassées plutôt proche du bouchon, comme on appelle ça, du bas de la perche. Donc, dans ces cas-là, on sent qu'on redescend un peu d'un étage, mais ce n'est pas traumatisant, parce qu'une perche qui se casse entre les deux mains du perchiste peut faire très mal, parce qu'il y a un renvoi souvent dans la tête ou au niveau du buste, et on garde des marques très longtemps.
Merci de nous avoir d'avoir répondu aux questions que j'avais à vous poser.
Avec plaisir.
Mais les JO, ce ne sont pas que des manifestations sportives. C'est aussi l'occasion pour le pays qui accueille de faire rayonner son image dans le monde entier. Et cela commence par le passage de la flamme olympique. Malheureusement, il ne faut pas s'attendre à la voir passer en Lozère. Eva et Clémence vont nous expliquer pourquoi.
Les Jeux Olympiques se dérouleront dans l'enceinte de notre capitale, Paris, entre le 26 juillet et le 11 août 2024. Cette compétition sportive, célébrée tous les 4 ans depuis l'Antiquité, revient pour une nouvelle édition à Paris même. Une première depuis 1924. Lors des Jeux Olympiques, une flamme sillonne le pays. Cet emblème nous vient d'une tradition antique. C'est grâce au rayon du soleil que la première flamme s'est déclenchée lors d'une cérémonie dans le sanctuaire d'Olympie en Grèce, où se déroulaient les Jeux Olympiques à l'époque. De ce fait, le passage de cet emblème perpétue les traditions grecques, renvoyant à la paix et à la coopération sportive. Elle contribue au rayonnement du pays en maintenant en avant ses sites historiques. La flamme va réaliser un parcours impressionnant à travers la France, parcourant plus de 12 000 km. Si on observe en détail le parcours qu'elle emprunte durant son périple, on peut remarquer un espace extrêmement vide dans la moitié sud de l'Hexagone. Mais pourquoi ? Cette année, la flamme démarra son périple le 16 avril 2024 à Olympie, en Grèce. Elle traversera ensuite la Méditerranée et arrivera le 8 mai à Marseille. La flamme sillonnera ensuite la métropole avant de repartir pour la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion ou encore la Polynésie française. Elle fera son retour le 18 juin à Nice et reprendra son périple en métropole avant de s'arrêter en Île-de-France. Mais alors pourquoi toute une partie de la France se trouve exclue de ce parcours? Premièrement, le prix. Le coût est de 180 000 euros afin d'accueillir la flamme dans l'enceinte du département. Ce prix étant fortement conséquent, le refus opposé par les différents départements semble beaucoup plus compréhensible.
Deuxièmement, la rentabilisation. Pour certains départements, investir dans la venue de la flamme est un investissement rentable car il peut apporter de la visibilité, mais également participer au développement économique de celui-ci. Mais, en opposition, pour certains départements, cet investissement n'aura pas les effets escomptés. En effet, en plus de participer au développement économique et culturel du département, le passage de la flamme a pour but d'être attractif et donc de toucher un maximum de personnes. C'est pourquoi l'un des arguments des départements n'accueillant pas l'emblème des JO est le nombre d'habitants. De plus, les villes étapes ont majoritairement été choisies afin de montrer des sites d'exception, encore une fois dans l'intérêt du département, mais aussi du pays en général. Afin de découvrir une plus grande partie de territoire et donc par la même occasion de faire voir un maximum de paysages, certains conseils départementaux avaient demandé un tarif flexible, proportionnel au nombre d'habitants recensés dans le département. Or, cette proposition a été refusée. C'est pourquoi, dans certaines régions, des groupes se sont formés afin de s'associer. C'est notamment le cas de l'Hérault et l'Aveyron, où les villes de Montpellier, Millau et Sète se sont associées afin de partager la flamme. Et en ce qui nous concerne, eh bien non, la flamme ne passera pas par la Lozère. Pour rappel, les organisateurs des JO demandent une cotisation de 180 000 euros pour pouvoir accueillir la flamme durant une seule et unique journée dans le département. On comprend donc que cette somme soit astronomique pour une durée si limitée et un département dont la population ne dépasse pas les 76 000 habitants.
Donc vous l'aurez compris, si vous voulez voir la flamme, il faudra sortir du département. Merci à toutes les deux pour ces explications.
On se retrouve pour la dernière partie de cette émission avec la rubrique Vie du lycée et les terminales ASSP. Ces élèves vont nous en dire plus sur leur projet de chef-d'œuvre et sur la lutte contre les leucodystrophies.
Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes les élèves de terminale ASSP. Accompagnement, soins et services à la personne. Et dans le cadre de notre bac, nous avons dû réaliser une épreuve intitulée chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre consiste à réaliser un projet tout au long des deux dernières années de la formation. Je vous laisse avec Shainez.
Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre projet en collaboration avec l'association ELA. On vous présentera le projet. Ensuite, on vous sensibilisera sur la maladie qu'est-ce que la leucodystrophie. On vous parlera de la dictée d'ELA, des engagements de certains sportifs contre la maladie. Et pour finir, on vous parlera du cross de l'espoir qui sera notre point final à ce projet.
On vous laisse avec Nina qui va interviewer Marion et Stécie pour vous expliquer le projet.
Comment se déroule le projet ?
Notre projet se déroule depuis la rentrée de septembre où nous avons organisé une dictée en octobre. Et nous continuons à préparer le cross qui aura lieu en février.
Pourquoi nous avons choisi ce projet ?
Tout simplement car nous sommes dans une filière d'accompagnement, soins et services à la personne et nous apprenons à être là pour soutenir, accompagner et soigner toute personne faible, atteinte de maladie ou d'handicap.
Marion, parle-nous de la dictée d'ELA.
La dictée d'ELA n'est ni un exercice d'évaluation, ni un concours d'orthographe. Un autre groupe vous le détaillera.
Qu'est-ce que les dons pour ELA ?
Les dons que l'on fait à ELA servent à la recherche médicale pour les leucodystrophies, pour aider et soutenir les familles, la personne malade dans leur vie quotidienne. Ces dons peuvent être faits sur le site d'ELA, mais aussi grâce à la classe de terminale ASSP. Nous avons distribué des carnets de parrainage pour inciter à faire des dons pour l'association.
Comment avons-nous fait passer les informations ?
Pour ce projet, nous avons fait passer des informations sur le site du lycée et sur les réseaux sociaux de type photo, messages et vidéos. Nous avons aussi mis des affiches pour informer des dates, des lieux et de l'intérêt de ces actions. Avec la classe de terminale ASSP, nous avons fait des annonces au micro pour prévenir les lycéens des événements passés et à venir.
Quand aura lieu le cross ?
Un cross aura lieu en fin février au lycée Émile Pétavin, qu'un groupe va vous détailler.
C'est au tour de Mounira qui va poser des questions en rapport aux leucodystrophies à Sylvie.
Bonjour, je m'appelle Mounira, en classe de terminale ASSP. Je vais interviewer Sylvie pour la sensibilisation aux leucodystrophies. Bonjour Sylvie.
Bonjour Mounira.
Sylvie, comment as-tu connu l'association ELA ?
J'ai connu l'association ELA au collège qui organisait le cross et la dictée chaque année.
En amont, il nous présentait brièvement ce qu'est ELA et les leucodystrophies.
As-tu été heureuse de participer à la dictée et au cross du collège ?
Oui, j'ai trouvé que c'était une très belle expérience et de se soutenir les uns et les autres pour les malades était une bonne action.
As-tu déjà entendu parler des leucodystrophies dans les médias ?
Non, pas spécialement. Ce serait bien d'en entendre plus parler afin de sensibiliser les personnes et également les familles touchées pour qu'elles se sentent plus soutenues.
Sais-tu ce que sont les leucodystrophies ?
Il s'agit d'une maladie neurodégénérative génétique rare attaquant la substance blanche du cerveau, la myéline, et transmise par les parents porteurs.
Es-tu contente de participer à ce projet ?
Oui, je suis contente car je me sens plus sensibilisée à ce sujet. J'ai pu acquérir de nouvelles connaissances sur ELA et les leucodystrophies et je suis contente d'apporter mon savoir aux autres.
Combien de formes de leucodystrophie sont distinguées ?
On distingue environ 30 formes de leucodystrophie et plus de 200 gènes responsables.
Quels sont les symptômes les plus fréquents de la maladie ?
Il y a des troubles moteurs comme la paralysie des membres inférieurs et supérieurs, des troubles intellectuels, la mémoire, la compréhension, le comportement, des troubles sensoriels, la vision et l'audition.
Y a-t-il des traitements pour soigner les leucodystrophies ?
On ne peut pas réellement soigner ces maladies, mais on peut diminuer les conséquences en réalisant une greffe de moelle osseuse au stade précoce et grâce aux dons, nous pouvons aider à financer la recherche et le matériel médical.
Merci d'avoir répondu à mes questions, Sylvie, et merci de nous avoir écoutés.
Merci à toi.
Emma va vous parler de la dictée.
Le mardi 17 octobre 2023, une centaine d'élèves d'ASSP et d'AEPE ont participé à la dictée d'ELA. Les autres classes ont également fait la dictée, mais dans leur classe avec leurs professeurs respectifs. La dictée n'était pas une évaluation, nous l'avons mise en place pour expliquer ce qu'est ELA et les leucodystrophies. Une vidéo officielle d'ELA a été présentée quelques minutes avant la dictée, afin de sensibiliser les élèves présents. Deux invités ont pris le temps de venir nous lire la dictée. Monsieur le maire Laurentio et le représentant du préfet Kérian Béros Pérez. La dictée a été rédigée par le prix Goncourt des lycéens 2022, Sabil Goussoub. Les élèves n'ont pas ressenti cette dictée comme une dictée scolaire, elle était importante et non stressante. Pour finir, nous avons réussi à sensibiliser les élèves à la maladie. On leur a transmis les valeurs d'ELA et on les a incités à changer leur regard sur les leucodystrophies.
C'est au tour de Thierry, Manon, Chaïd, Lauriane et Morane de vous parler des engagements de certains sportifs contre la maladie.
Ils sont nombreux à s'engager pour lutter contre les leucodystrophies, mais aujourd'hui, des sportifs qui sont mobilisés contre la maladie, cette maladie qui nous touche tous et qui touche nos enfants malheureusement. Dans ces sportifs-là, nous pouvons retrouver Béatrice S., Luc Alphan, Michel Platini, Sébastien Levic, Stéphane Diagana et Zinedine Zidane.
On va vous parler de trois sportifs.
Il y a notamment l'ancien footballeur international Zinedine Zidane. Il est le parrain et membre d'honneur depuis l'an 2000 de l'association ELA. Il s'engage car il est extrêmement touché par le combat d'ELA et propulse l'association.
Stéphane Diagana, champion du monde de 400 mètres de haies, il rejoint l'association ELA en 1995. Il est très impliqué aux côtés d'ELA pour l'opération Métabasket et bat la maladie.
Béatrice Heuss est une championne paralympique de natation. Elle est également membre d'honneur. Elle est présente aux côtés de l'association depuis 1996.
Un grand merci de nous avoir écoutés et continuons de combattre la maladie grâce à l'association ELA. Et maintenant, je laisse à présent la place à mes collègues.
Pour finir, Maëlys, Nicolas, Ibrahim et Brian vont vous parler du cross.
Aujourd'hui, on va parler du cross du lycée Émile Pétavin.
Eh oui, le cross se déroulera le jeudi 29 février, toute la journée.
Donc là, le cross se déroulera dans la cour du lycée, sur une distance de 1,6 km sur deux tours en relais.
Le premier départ est de 9h à 9h55 pour tous les secondes.
Et le second départ est de 10h30 à 11h30 pour les secondes également.
Dans l'après-midi de 14h15 à 15h15 se déroulera le départ des premières et terminales.
Le dernier départ du cross sera de 16h15 à 17h15 pour les premières et les terminales qui n'ont pas cours sur la base du volontariat. Un formulaire vous sera transmis par vos professeurs principaux pour vous inscrire au cross.
Merci d'avoir écouté notre rubrique.
Information de dernière minute, nous aurons le plaisir d'accueillir Guillaume Caparros qui viendra faire l'animation durant la journée du cross. L'ensemble de la classe de Terminale ASSP vous remercie pour votre écoute et vous donne rendez-vous le 29 février 2024.
Au revoir.
Merci de nous avoir écoutés. C'est la fin de l'émission. Nous vous souhaitons une très bonne journée et à bientôt.